Alors, il me revient, en tant que président du comité de pilotage scientifique du colloque, de mettre en perspective quelques éléments de la problématique qui sous-tend le colloque et quelques-uns des objectifs que nous avons en tête, nous n'avions en tête lorsque nous avons constitué le projet et le programme. Mais je dois dire que ces éléments de problématique, ces objectifs ont largement été parcouru et balayé d'une part par Jean-Louis Salzmann et d'autre part et surtout par Monsieur le Recteur qui a évoqué bien des aspects que nous serons amenés à travailler tout au long de la journée et produit un certain nombre d'analyses que nous pouvons considérer comme des éléments, des pleins éléments de notre réflexion qui s'est ainsi déjà ouverte. Et vous avez évoqué, Monsieur le Recteur, une thématique qui m'est chère et qui, je crois, effectivement, mérite d'être rappelée, car c'est en somme un peu sous l'égide de cette dimension et de cette mission que nous travaillons ces sujets. Je veux parler de la responsabilité sociale des universités. Alors, pour reprendre, un fil conducteur et essayer de mettre synthétiquement en perspective quelques-uns de ces éléments problématiques et de ces objectifs, je repartirai du fondamental, cet enjeu de l'éducation à la citoyenneté. C'est une mission de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, et elle est au fond au cœur du projet éducatif républicain, orienté par ses valeurs fondatrices, que sont les principes de liberté, d'égalité, de fraternité, de justice, de lutte contre les discriminations. Éduquer à la citoyenneté, c'est d'abord éduquer à ses valeurs, les faire vivre, les faire partager. De surcroît, l'analyse de l'acte éducatif lui-même permet d'avancer que les valeurs de la citoyenneté le sous-tendent de part en part, car le savoir a vocation à se partager, il s'offre à la discussion, à la vérification et à la critique, il est par essence émancipateur, parce qu'il fait apprendre, aussi bien en termes de contenu que de méthode, et il est aussi, par sa dimension d'universalité, son caractère de bien commun, j'en suis convaincu, le lien qui peut le plus puissamment contribuer à l'idée de communauté, entendue elle-même comme reposant sur l'idée de partage, de justice et de solidarité. Mais nous le savons bien, s'il doit y avoir éducation à la citoyenneté, c'est parce que les valeurs qui font une telle communauté ne s'imposent pas d'elles-mêmes spontanément. Nous pouvons avoir des dispositions à la justice. Ces dispositions, néanmoins, se forgent, s'apprennent, s'éduquent dans le rapport aux autres, dans le rapport aux formateurs. Et sans une telle éducation, cette disposition a toutes les chances de ne pas s'actualiser, comme aurait dit Aristote. À cet égard, le surgissement dans nos vies du numérique et de ses potentialités gigantesques ne peut être considéré comme un événement sans incidence significative sur ces questions mêmes. Nous voyons profondément évoluer les pratiques, au point que parler d'un tournant anthropologique lié à l'avènement du numérique n'est sans doute pas excessif. Le numérique, de fait, n'est plus seulement un outil, mais aussi un médium, un milieu dans lequel nous évoluons, et c'est dans ce sens que l'on peut dire qu'il transforme l'homme en ce que la culture humaine se construit désormais dans cet environnement numérique, directement ou indirectement, et en ce que le numérique semble recéler une capacité à démultiplier sans limite la puissance d'agir au gré des innovations qui en scandent le cours. En particulier, l'avènement de ce qu'on a appelé la phase 2.0 du réseau numérique Internet, pour reprendre une formule qui est utilisée pour désigner cette dimension participative par laquelle désormais les usagers d'Internet deviennent aussi des contributeurs et des producteurs des contenus diffusés. Cela a fait basculer dans une dimension nouvelle, riche de très nombreux aspects, à proportion de ce que cette échelle d'échange, de collaboration ou de coopération rend possible. Mais précisément, dans cette dimension d'outils et de médium, le numérique présente une part d'ombre et une part de lumière sur lesquelles ce colloque se propose de se pencher, car l'on peut être autant frappé par la dimension émancipatrice des ressources du numérique et de l'Internet que par sa capacité à conforter les ignorances, à faire prospérer les croyances, à rassembler les discours haineux et à les banaliser. Démarches participatives, mobilisation citoyenne, augmentation du pouvoir d'agir. Les critiques de la démocratie moderne, qui lui reprochent de ne pas l'être assez, d'être fondée sur un principe de représentation, de ne pas entendre les citoyens, tous les citoyens, et en particulier les minorités, d'être au mieux indirecte, au pire illusoire, ces critiques semblent trouver une forme de remède ou d'objection à travers cette mise en réseau et en circulation, ces échanges collaboratifs démultipliés que permet Internet. Nous le savons, des mobilisations citoyennes de grande ampleur ont été rendues possibles par ce biais, et l'expression forte et claire de la société civile se trouve ainsi rendue possible à un niveau inédit, donnant ainsi la possibilité de conférer un poids politique à des mobilisations. Sans me prononcer sur le fond, le cas récent et spectaculaire de la mobilisation contre la loi travail est à cet égard exemplaire. Dans l'esprit, cet aspect se conjugue avec l'idée de science ouverte, de déploiement à grande échelle du dialogue science-société, mais aussi de science participative et plus globalement de promotion de la culture de l'open, même si, là encore, je me garderai de suggérer que toutes les mobilisations citoyennes reposent sur une vision parfaitement éclairée, vraie, incontestable, scientifique, versus une vision partisane qui serait celle des décideurs et qui serait nécessairement liée à des intérêts. Dans le détail, la question est certainement plus complexe car elle met en jeu la question de la science elle-même, de sa neutralité, de son indépendance, de l'usage qui peut être fait des données ouvertes également et de leur interprétation. Mais en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est la capacité à produire des espaces de débat et de mobilisation inédits et de très grande ampleur et à conduire à une culture plus globalement de la transparence des informations et du partage. Mais d'un autre côté, tout se passe aussi comme si les critiques les plus acerbes de la démocratie trouvaient également un argument supplémentaire dans l'existence même d'Internet. La démocratie, régime des opinions et des faux-semblants, fossoyeur de l'idée même de vérité, je cite pour ainsi dire Platon, semble trouver son couronnement avec Internet qui, de façon indiscriminée, permet d'accueillir et de répercuter toutes sortes d'expressions, toutes sortes. Les sites traditionnels, les sites de partage, les forums, les réseaux sociaux permettent de diffuser et de relayer très largement et à très grande échelle toutes sortes de messages dans des textes, des images, des vidéos, des messages fantaisistes, pour ne pas dire faux, des messages de haine, des messages sectaires. Internet permet alors moins d'éclairer que de renforcer les mensonges les plus éhontés, les idées les moins bien vérifiées, de faire sombrer dans la plus grande confusion qui n'y est pas préparée, qui n'est pas outillée pour y faire face. C'est-à-dire pour pouvoir appliquer face à ces flux d'informations un jugement critique et lucide sur ce qui est trouvé et qui peut parfois présenter les apparences de la vérité. Pour aller au pire, entre manipulation et incitation à la haine, nous savons bien désormais que des individus, souvent jeunes, sont captés, amenés à prendre fait et cause pour des causes funestes. Ces phénomènes d'embrigadement, de radicalisation dans la compréhension et la capacité à les contrecarrer sont devenus une préoccupation majeure de la puissance publique, sont bien sûr aussi à l'horizon de notre réflexion collective. Dans une certaine proximité avec ces questions, les phénomènes du conspirationnisme et du complotisme qui ont ressurgi avec une virulence extrême à la suite des attentats du 11 septembre 2001 nous interpellent aussi fortement car ils présentent cette difficulté de nature qui tient à ce qu'ils miment, en somme, une approche critique d'événements historiques et contemporains comme s'ils livraient la vraie clé d'intelligibilité non biaisée d'événements. Ils sont comme des simulacres d'approche scientifique et l'on sait, là encore depuis Platon, toute la difficulté qu'il peut y avoir à faire le départ entre le simulacre et le réel. Comment déconstruire ces fictions? Comment rétablir un critère de vérité face à ces discours? Comment faire la démonstration de leur soubassement idéologique et en convaincre ceux qui se laissent séduire par eux? Bien des questions sont posées par ces discours manipulateurs, des questions graves, lourdes de conséquences, discours manipulateurs qui jouent parfois avec une grande habileté sur les zones d'incertitude. C'est en somme cet ensemble problématique très conséquent qu'il nous revient d'aborder, au moins d'aborder au cours de la journée des quatre tables rondes, selon une organisation qui a été travaillée et pensée dans le cadre du comité de pilotage scientifique, dont je remercie les participants, et qui a pris toute sa consistance grâce à la détermination sans faille de Christine Crespi, que je tiens à remercier spécialement en notre nom à tous. Ces tables rondes, dont je remercie aussi les animateurs, David Douillère, qui qui prend le relais au pied levé de Philippe Vendrix, je l'en remercie, Patrick Lévy, Christine Gangloff-Ziegler, Liliane Labeck et l'ensemble des participants. Nous permettrons d'abord, au cours de la première session, de prendre la mesure de la complexité du sujet. C'est ce que nous avons appelé les nouvelles problématiques de la citoyenneté à l'ère numérique, en soupesant, d'une part, les opportunités que peut présenter le numérique. C'est principalement l'objet de la première table ronde. Comment le citoyen s'empare-t-il du numérique, les enjeux et les limites? En prenant ensuite la pleine conscience des risques qu'il induit, et c'est là encore principalement l'objet de la deuxième table ronde, comment réseaux politiques et sphères d'influence se saisissent-ils d'Internet, les enjeux et les risques? Cela nous permettra de mieux revenir ensuite, cet après-midi, à la question qui est notre fil rouge, celle de l'éducation à la citoyenneté, et derrière elle, celle du processus éducatif plus largement dans ce cadre renouvelé, riche d'opportunités et de risques inédits. C'est l'objet donc de cette deuxième session que nous avons intitulée « Les conditions de la citoyenneté et de l'exercice démocratique, la nécessité de l'éducation et des acquis nécessaires à la construction d'une culture numérique citoyenne ». Cela nous amènera donc à nous interroger sur ce que doit être l'enseignement d'une culture numérique citoyenne, permettant de prémunir les élèves, les étudiants, les apprenants, de leur permettre de faire l'usage le plus positif du numérique. Ce sera ce que la troisième table ronde a intitulé « Comment construire une culture numérique citoyenne ? Comment former les publics ? Comment aboutir à une définition partagée de la littératie numérique balayera ?» Cela nous amènera à une dernière réflexion qui n'est pas la plus facile, car elle pose la question de l'éducateur lui-même et de sa capacité à former, mais aussi à être lui-même formé. La dernière table ronde, intitulée « Comment relever le défi de la formation des formateurs au numérique dans un contexte de recherche en émergence », se fixera, en gros, des objectifs tels que le type de formation à mettre en place, le type d'enseignement et de quelle nature, dans une perspective d'apprentissage des usages éclairés du numérique, à la fois pour prévenir des risques, mais aussi accompagner ces usages citoyens. Ce qui pose aussi bien, et in fine, l'enjeu général de la mutation du système éducatif et de ses dispositifs, c'est-à-dire de son propre devenir numérique que le recteur évoquait tout à l'heure. Ces questions sont très considérables et elles conduisent au fond à penser, pour reprendre la formule de Milad Douaï, la possibilité d'un humanisme numérique ou encore les conditions d'un devenir citoyen conforté par le bouleversement numérique. J'espère, je ne doute pas, que nous allons avoir tout au long de la journée de très beaux et de très instructifs échanges sur ces questions, des échanges qui doivent nous ouvrir des pistes d'analyse, de compréhension, mais aussi d'action, et qui, in fine, seront, je l'espère, dans l'esprit de ce qu'avait imaginé et voulu Pierre Sineux, à qui j'adresse à mon tour une pensée très émue. Je vous remercie.